L'apôtre Jean était prisonnier sur l'île de Patmos. Et c'est là qu'il a probablement écrit plusieurs des textes que nous avons dans le Nouveau Testament. L'Apocalypse, l'Évangile de Jean, même écrit probablement après l'Apocalypse. Et dans son Évangile, Jean parle à cette deuxième génération des chrétiens. Jean reste à ce moment-là probablement le dernier qui a connu Jésus personnellement, qui a parlé avec lui, qui a vécu avec lui. Tous les autres, en réalité, ont appris à connaître Jésus par l'intermédiaire des témoins de Jésus. Et cette deuxième génération de chrétiens qui a accepté Jésus comme son sauveur personnel se sent dans une certaine mesure comme une génération de deuxième rang, une deuxième génération de qualité inférieure parce qu'eux n'ont pas pu rencontrer Jésus, eux n'ont pas pu parler avec lui. Ils l'ont simplement eu par intermédiaire. Jean veut écrire à ces gens pour leur rappeler que la puissance de Jésus est encore accessible aujourd'hui, elle est accessible par sa parole. D'ailleurs, tout à la fin de son évangile, au chapitre 20, Jean va préciser pourquoi il a eu à cœur d'écrire son évangile. Évangile de Jean, au chapitre 20, au verset 30, il est écrit ceci. Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 30. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Voilà pourquoi Jean écrit l'Évangile. Il veut communiquer à ces gens de la deuxième génération le fait que la puissance de Jésus elle est encore accessible par le moyen de sa parole, même si Jésus est absent. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Corinthiens, faisait remarquer que maintenant, même s'ils avaient connu Jésus d'une certaine manière, à ce moment-là, ils le connaissaient autrement. Ainsi, dans son évangile, Jean veut annoncer la puissance de la parole de Dieu. Et cette parole est puissante. Elle est puissante pour transformer. Dès le départ de cet évangile, Jean va mentionner que c'est Jésus qui est le Créateur. C'est lui qui est à l'origine de toute chose. C'est lui qui a créé le monde. Et c'est lui qui vient aussi pour nous sauver. Dans le chapitre 2, Jean va rapporter cet événement des noces de Cana, où il n'y avait plus assez de boissons. Et Jésus va transformer de l'eau en jus de raisin pour satisfaire aux besoins de la situation. Et encore une fois, dès le départ dans cet événement, l'évangéliste rapporte des symboles que l'on retrouve dans le sacrifice de Jésus pour montrer que Jésus est venu pour donner sa vie de façon à ce que nous puissions être sauvés en son nom. Il y a le symbole de l'eau et du vin, ici bien entendu du jus de raisin qui représente Jésus et que l'on retrouve au moment de la croix. Dans cet événement, Jésus essaie de montrer que le salut qui va naître de son sacrifice, est vraiment accessible à tout le monde. Il va faire du jus de raisin pour beaucoup de gens. Il ne va pas simplement faire un miracle qui va donner deux ou trois bouteilles de plus. Les commentateurs, évidemment, ne sont pas tout à fait d'accord sur ce que représente une mesure, la mesure de ces vases de pierre qui étaient rapportés dans l'histoire. Mais il semble que Jésus ait fait un miracle qui a apporté entre 3 et 400 litres de jus de raisin pour les noces de Cana. Une manière de dire que finalement, ce salut est accessible à tous. Il y en a suffisamment pour tout le monde. Et quand tout le monde en a, il y en a encore. Dans le chapitre 3, Jean va rapporter cette parole bien connue de Jésus. Peut-être le seul verset que les chrétiens connaissent tous par cœur, qui se trouve dans le troisième chapitre de l'évangile de Jean, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit. Si les gens de la deuxième génération avaient du mal à croire, qu'en est-il des gens de la 80e génération que nous sommes? Est-ce que nous avons cette assurance du salut en Jésus comme il nous l'a présenté? Je crois que l'évangile de Jean nous donne les éléments dont nous avons besoin, nous, générations bien plus tard, pour comprendre que la puissance de Jésus est encore à notre disposition, que son salut nous est encore offert, que sa grâce est encore accessible à chacun d'entre nous. Quiconque croit, mais qui sont ces quiconques? L'évangile de Jean va nous expliquer qui sont ces quiconques. Jean va rapporter des événements de la vie de Jésus pour nous aider à comprendre quiconque, c'est qui. On pourrait penser quiconque, ce sont les autres, mais pas moi. Jean va rapporter ces événements pour nous aider à comprendre dans l'esprit de Jésus, dans la vie de Jésus, qui sont ces quiconques. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de deux amis de Jésus. Le premier s'appelle Niki et le deuxième s'appelle Samy. Niki, c'est le nom que je donne à cet homme qui s'appelle Nicodème et qui est venu voir Jésus de nuit. Ça nous est rapporté dans le troisième chapitre de l'évangile de Jean. Cet homme, c'est un juif qui vient voir Jésus et qui avait probablement été dans la délégation qui s'était rendue auprès de Jean-Baptiste. Il en est question dans le premier chapitre de l'évangile selon Jean, au verset 24. Il est dit, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni les prophètes? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Cette délégation avait posé à Jean-Baptiste la question, tu baptises, mais de quelle autorité? Que fais-tu? Qui es-tu? Et il semble bien que dans cette délégation, Nicodème était présent. Curieusement, on découvre dans l'évangile de Jean un thème intéressant, le thème de l'eau. Il est là dès le départ. L'évangile de Jean commence avec la création. Et lorsque l'on se réfère à la Genèse nous dit que le monde était couvert d'eau. Et puis dans ce même chapitre, le premier chapitre de l'évangile de Jean, nous est rapporté le baptême de Jésus. On a l'impression que la conversation que Nicodème a commencée avec Jean-Baptiste au bord du Jourdain, Jésus va la continuer avec lui plus tard lorsqu'il va venir le voir de nuit. Au chapitre 2 de l'évangile de Jean, c'est les noces de Cana. Encore une fois, l'eau est présente. Jésus va transformer cette eau en jus de raisin, symbole de son sacrifice pur. Au chapitre 3, il est question du baptême. Dans la conversation que Jésus va avoir, encore une fois, avec Nicodème. Au chapitre 4, c'est l'histoire de la Samaritaine. Et Jésus va la rencontrer au bord du puits. Et il va parler de cette eau. Il va lui demander à boire et lui dire, il y a une autre eau que je peux te donner, dans le sens spirituel. À cette eau-là, il faudra que tu viennes te ressourcer régulièrement. Et puis au chapitre 5, Jésus va guérir un homme qui est au bord de la piscine. L'eau de la piscine n'a pas pu le guérir comme il pensait par la tradition. Jésus, en fait, va remplacer cette eau. C'est Jésus qui va guérir cet homme qui attend au bord de la piscine. Au chapitre 6, il y a le thème du pain qui vient. Mais dans ce même chapitre, on a cet événement où l'on voit Jésus qui va marcher sur les eaux, vainqueur de cette eau qui représente dans le cas particulier notre misère, notre souffrance, notre péché. Au chapitre 7, c'est la fête des tabernacles. Et dans cette fête, il y avait la présence de l'eau et du jus de raisin aussi qui était présenté. Et Jésus se présente devant cette fête. Jésus se présente devant ce peuple et au moment de la fête, il leur dit, mais si vous avez soif, si vous voulez vraiment de cette eau profonde, de cette eau de la vie, eh bien, je suis capable de vous donner cette eau. Il va profiter de l'occasion que le symbole est là présenté devant le peuple pour amener le peuple à voir plus loin que l'eau physique qui leur est présentée. Et puis, au chapitre 8, on revient curieusement au symbole de la lumière qui était au chapitre 1. Et Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. » Dans les premiers chapitres de l'évangile de Jean, l'eau est très présente. Cette eau qui nous rappelle la création, qui nous rappelle la vie, est un symbole qui parle énormément dans ce pays. On n'ouvre pas simplement le robinet à l'époque pour avoir de l'eau, il faut aller puiser l'eau. Il faut aller chercher l'eau. Et cette eau, elle est véritablement dans le sens littéral, la vie. Pas d'eau, c'est le désert. On arrose, ça pousse. L'eau est véritablement un symbole très parlant pour ce peuple qui vit au seuil du désert. Et Jésus se présente comme étant cette eau, origine de la vie. Jésus est avec Niki, qui est venu le voir de nuit, et lui parle justement du baptême, comme s'il continuait cette conversation qu'il avait commencée avec Jean-Baptiste au bord du Jourdain. Mais qui est Nicodème ? Nicodème, c'est un juif, c'est un homme. Ça commence avec les hommes, ça commence avec un juif. Et puis, nous dit le texte, c'est un pharisien, c'est un homme droit, c'est un homme pieux. Jésus va parler à Nicodème et va s'adresser à lui en disant « Tu es le docteur d'Israël ». C'est un savant, c'est un érudit. C'est peut-être un grand professeur de l'université de Jérusalem. Il est le docteur d'Israël, il est la référence, c'est vers lui qu'on regarde quand on veut savoir ce qu'il faut penser et ce qu'il faut faire. C'est un homme riche par conséquent. Il a les moyens, il a un certain niveau de vie, cet homme-là. Nicodème a un nom intéressant, son nom veut dire « leader du peuple ». Il a un nom. Avoir un nom, c'est important, parce qu'avoir un nom, c'est représentatif de notre identité, surtout dans cette conception biblique, leader du peuple. Ah, il porte bien son nom, Nicodème. Il est effectivement un leader du peuple, il est un homme éduqué, c'est un homme pieux, c'est un pratiquant, il va au temple régulièrement. Nicodème, c'est un homme respecté, il est membre du Sanhédrin. Un de ceux qui sont sélectionnés comme étant les sages, ceux qui gouvernent le pays. Du moins, autant qu'ils peuvent, autant que les Romains les laissent faire. Et puis, Nicodème, c'est un habitant de Jérusalem. Ce n'est pas un villageois qui vient de quelque part, perdu dans la province, un petit village. Nicodème, c'est un habitant de Jérusalem, la ville sainte. Et il vient de nuit voir Jésus. Nicodème, c'est le personnage idéal. C'est la figure de celui qui a réussi dans la vie. Et je peux imaginer facilement que les parents parlant à leurs enfants, à leurs adolescents, montrent Nicodème qui passe dans la rue et qui dit « Vois-tu, cet homme-là, il a bien réussi. Il faut que tu étudies bien comme lui à l'école pour arriver comme Nicodème est arrivé, pour que tu réussisses comme lui. » C'est un homme vers qui on lève les regards comme quelqu'un qui a marché droit, qui a réussi dans la vie et qui par conséquent est béni de Dieu. C'est un exemple. Il est représentatif. Et cependant, quand Nicodème vient voir Jésus, Jésus lui dit « Tu dois naître de nouveau. » Et il lui montre qu'il ne sait même pas comment ça se passe. Il essaie de lui faire comprendre que le salut qu'il offre, c'est un salut qui lui vient par Jésus, pas par tout ce qu'il est capable de faire, lui, Nicodème, le docteur d'Israël. « Tu dois naître de nouveau. » Nicodème, c'est un de ces quiconques dont il est question dans ce passage de Jean 3,16. Quiconque croit. Cet exemple présente un homme qui est tout en haut de la société, qui a atteint le sommet. Mais il fait aussi partie, lui, de ces quiconques qui sont invités à croire en Jésus pour recevoir la vie éternelle. Dans le chapitre suivant, dans le chapitre 4, Jean va présenter un autre événement de la vie de Jésus. C'est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Au bord du puits, il va engager la conversation avec elle à propos de l'eau qu'elle est venue puiser. Et la question est de savoir où elle puise. Dans le puits de la tradition, dans le puits de la vérité. C'est un peu la question que Jésus va essayer de susciter à son esprit. Mais regardez la différence énorme entre Niki et Samy. Samy, c'est la Samaritaine, mais on ne connaît pas son nom. Alors permettez qu'on l'appelle Samy, c'est une femme. Elle n'a pas de nom. Déjà, une femme ne joue pas un rôle très important dans cette société. Mais en plus, elle n'a pas de nom, elle n'a pas d'identité. C'est dire qu'elle est personne dans cette société-là. C'est une femme. Elle n'a pas de nom. Elle n'est pas juive, elle est samaritaine, s'il vous plaît. Ces gens que les juifs dédaignaient parce que c'était des bâtards, finalement, même spirituellement. Cette femme est pauvre. Elle doit faire toutes les corvées elle-même, elle n'a pas des servantes pour aller lui chercher de l'eau. Elle fait tout elle-même à la maison. Et puis, elle est adultère en plus. Elle est hors la loi. C'est une femme mal considérée, de mauvaise vie. Elle est par conséquent méprisée. Elle n'a pas contact avec les autres non plus. Et puis, elle habite Sichem. Sichem veut dire la ville de l'ivresse. Alors, on met les morceaux ensemble, on pense à cette femme adultère et à l'ivresse, et tout de suite, on pense à cette image que l'on retrouve dans l'Apocalypse d'ailleurs, avec cette femme infidèle qui rend ivre tous les gens autour d'elle. Et cette femme, elle vient rencontrer Jésus à midi. Elle a peur de venir au moment où les autres viennent puiser, parce qu'elle n'a pas envie de rencontrer celle dont elle a peut-être volé le mari, une fois ou deux fois. Alors elle va aller puiser de l'eau quand personne n'y va, au moment le plus chaud de la journée, et c'est là qu'elle va rencontrer Jésus, à midi. Remarquez le contraste incroyable entre Nicky et Samy. Nicodème, c'est un homme. Samy, c'est une femme. Il est juif. Elle est samaritaine. Il habite Jérusalem. Elle habite la ville de l'ivresse. Il est pharisien. Elle est adultère. Il est honoré. Elle est méprisée. Il est riche. Elle est pauvre. Il est instruit. Peut-être ne sait-elle même ni lire ni écrire. Il vient à minuit. Elle vient à midi. Nous avons là deux extrêmes. Mais ils sont tous les deux les quiconques croient dont Jésus parlait. Dans cette image qui est présentée par l'évangéliste Jean, il essaye de rapporter cet enseignement de Jésus. Quiconque croit. Et vous voulez savoir qui c'est quiconque? Eh bien Jésus nous le dit, quiconque, ça commence avec Nicodème, là tout en haut. Et puis ça va jusque la Samaritaine, là tout en bas, où on les place dans notre échelle des valeurs humaines. Quiconque croit, eh bien ce sont tous ceux qui sont quelque part entre Nicky et Samy. Et nous n'allons pas nous associer à Nicodème parce que nous ne sommes pas de ce niveau-là. Nous ne sommes pas membres du Sanhédrin, nous ne sommes pas de riches intellectuels, nous n'avons pas ce statut-là. Non. Nous avons peut-être du mal à nous associer à ce personnage qu'est Nicodème. Mais nous n'arrivons pas non plus à nous associer avec la Samaritaine. Nous ne vivons pas dans l'immoralité. Nous ne sommes pas dans cette situation-là. Nous n'en sommes pas là. Non, mais nous sommes quelque part entre les deux. Quelque part les quiconques qui remplissent tout le spectre de ces gens qui sont entre Nicodème et la Samaritaine. Tous les quiconques qui sont prêts à croire que Jésus est venu pour leur donner la vie éternelle. Ainsi, le résultat, on le voit. On le voit avec Nicodème et on le voit avec la Samaritaine. Regardez par exemple dans l'évangile de Jean, un peu plus loin, au chapitre 19. Nicodème va réapparaître, de jour cette fois-ci. Évangile selon Jean, chapitre 19. À partir du verset 38, il est écrit ceci. Évangile selon Jean, chapitre 19. Verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Le voici Nicodème. Au moment de la crise, au moment où les disciples de Jésus se sont envolés comme des moineaux, Nicodème est là, et pas de nuit, de jour. Il vient témoigner de son attachement au Christ devant tout le monde. Qu'en est-il de la Samaritaine ? Revenez avec moi dans l'évangile de Jean au chapitre 4, où nous voyons cette femme agir d'une manière tout à fait inattendue. Évangile selon Jean, chapitre 4, au verset 28, il est dit « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Et ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Cette femme qui vient à midi pour ne rencontrer personne, tout d'un coup rencontre Jésus, court dans la ville et crie à tout le monde « Je crois que j'ai trouvé le Christ, venez voir !» Et un peu plus loin, au verset 42 dans le même chapitre, verset 41, « Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. » Et il disait à la femme « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Que ce soit Nicky, que ce soit Samy, voilà deux personnages, deux quiconques, qui dans leur rencontre avec Jésus ont été transformés en témoins de Jésus-Christ. Ils ont témoigné de leur foi au éclair en plein jour. Leur rencontre a résulté dans une transformation de leur vie, parce que c'est Jésus qui l'a fait. Ainsi, nous qui vivons dans cette génération, bien longtemps après que Jésus soit venu, soit mort et ressuscité, remonté au ciel, nous avons entre les mains cette même parole qui contient cette même puissance, cette puissance que Jean voulait donner à ces gens de cette deuxième génération qui doutaient qu'ils puissent avoir une expérience aussi solide que ceux qui avaient rencontré Jésus personnellement. Cette même puissance, elle est là pour nous aussi. Elle est aussi accessible. Permettez que je vous lise ce paragraphe issu du livre Jésus-Christ à la page 153. Aucun remède humain n'est efficace auprès de l'âme qui a péché. Pour que les eaux jaillissant du cœur soient pures, il faut que leur source soit purifiée. Celui qui s'efforce, en observant la loi, d'atteindre le ciel par ses propres œuvres, entreprend une chose impossible. Il n'y a point de salut pour qui n'a qu'une religion légale, une simple forme de piété. La vie chrétienne n'est pas simplement une modification ou une amélioration de la vie ancienne. C'est une transformation de nature. Il doit y avoir une mort au moi et au péché et une vie entièrement nouvelle. Seule l'action efficace du Saint-Esprit peut produire un tel changement. Quand l'Esprit de Dieu prend possession d'un cœur, la vie est transformée. Personne n'aperçoit la main qui soulève le fardeau. Personne ne voit la lumière qui descend des parvis célestes. La bénédiction est acquise quand une âme capitule devant Dieu. Alors une puissance invisible crée un être nouveau à l'image de Dieu. Voilà ce que la puissance de Dieu est capable de faire. C'est ce qu'elle a fait avec Jean et les autres disciples. C'est ce qu'elle a fait dans tous les siècles à travers de sa parole lorsqu'elle a été reçue. Et c'est ce qu'elle est capable de faire aussi aujourd'hui pour tous ceux qui ont du mal à concevoir qu'ils sont acceptables encore aux yeux de Dieu. Dans le livre « Vers Jésus », je trouve ce paragraphe, il est admirable. « Si vous vous donnez à lui et si vous l'acceptez comme votre sauveur personnel, quelque coupable que votre vie ait pu être, vous êtes à cause de lui considéré comme juste. Le caractère de Jésus-Christ est substitué à votre caractère et vous avez accès à Dieu tout comme si vous n'aviez jamais péché. De plus, Jésus change votre cœur, il y habite par la foi. » C'est effectivement ce que nous voudrions pour nous-mêmes. C'est ce que Jésus a donné à Nicky, à Samy, à tous les autres. Et je crois que Jésus peut nous le donner aussi, parce qu'il l'a promis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.